Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis avec un dessinateur parmi les plus drôles de tous les dessinateurs de bandes dessinées actuelles. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je l'ai découvert dans une bande dessinée hilarante consacrée aux Vikings, donc à des barbares qui rend à la fois mystérieux et très sympathique. On a travaillé ensemble sur un projet dont on parlera à la fin de l'interview. Je suis donc avec Au Hasard, c'est un pseudo. Je ne sais pas si tu veux révéler ton véritable nom, c'est peut-être un secret, on ne sait pas. Bonjour Au Hasard.
Bonjour.
Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qui es-tu ?
Alors, donc, je suis Au Hasard, je suis dessinateur, illustrateur, graphiste, peintre, ameuseur, on va dire, à partir du moment où il y a de l'image, ça m'intéresse. Et puis donc, là, je suis, comme vous venez de le dire, ou tu viens de le dire.
Ouais. Oui, on peut te tutoyer, oui, il n'y a pas de problème.
Comme tu viens de le dire, je viens de sortir le tome 2 de Vikings dans la brume avec Wilfried Lupano au scénario, Wilfried Lupano étant mon frère.
Alors, la BD historique d'humour, c'est pas très courant. Souvent, il y en a encore quelques-unes, c'est souvent pas très réussi, c'est souvent un peu des gros sabots, c'est pas très drôle. Là, Vikings dans la brume, c'est vraiment très drôle, très fin, ça joue beaucoup sur les anachronismes, sur le dialogue. Comment tu es rentré dans la BD d'humour historique ?
Alors, comment je suis rentré ? À la base, rendons à César ce qui est à César, c'est Wilfried qui a eu l'idée d'aborder cette thématique, qui me l'a proposée. On a évoqué le format, donc le strip en fait, le gaufrier pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait ça fait la plupart du temps les gags font 6 cases, ça ressemble à une gaufre, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, même s'il y a des variantes. Donc le format c'était deux gags par page et le tout racontant une histoire. Donc ça, c'est vraiment un format qu'on affectionne, ça fait partie de notre culture. On a lu les premiers Gaston Lagaffe, il me semble, c'était ce format-là. Nous, on vient de... On a beaucoup aimé Calvin et Hobbes, Retour à la Terre. Enfin, c'est la bande dessinée d'humour. Dans ce format, on aime beaucoup. C'est assez compliqué à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand c'est... bien géré, en fait, c'est plutôt, ça peut être très efficace.
Oui, quand on lit, on se rend compte de la difficulté parce qu'il y a très peu de dialogue. Ça, c'est aussi la force des Vikings dans la brume, c'est qu'il y a très peu de dialogue. Les dialogues sont parfaits, mais tout passe par le dessin, par les mimiques, par les petits détails, par les formes des Vikings, par il y en a des gros, des petits, des maigres. Enfin, il y a toutes sortes de il y a un petit catégorie de Vikings assez drôle.
Absolument, ouais. En fait, bon, déjà les textes sont effectivement, il y en a très peu, mais c'est chirurgical. C'est vraiment ciselé, c'est millimétré, quoi. Après, c'est une histoire. Alors, merci pour tout le côté dessin et tout. Hein, c'est très sympa. Mais en fait, c'est une histoire de timing. On se retrouve vraiment dans la même mécanique que quand on fait ce genre d'exercice, hein, le gag en gaufrier comme ça. C'est vraiment la même mécanique qu'en théâtre et en cinéma pour l'humour. C'est une histoire de timing. Donc il faut être minimaliste dans le dessin et dans les textes. S'il y a trop de textes, s'il faut relire les textes pour comprendre le gag, c'est mort. Si le dessin il est pas clair et s'il y en a trop. Et que c'est confus et donc qu'il faut relire et que ça demande de relire la case ou de relire le gag pour le comprendre, en fait c'est qu'on a mal bossé aussi, c'est mort. Donc ça veut dire qu'il faut faire il faut aller à l'efficace, il faut accepter d'en enlever. Moi au début j'avais tendance à, parce que je dessine en grand format, j'avais tendance à dessiner beaucoup de choses et on s'est aperçu à la réduction et à la lecture, il fallait épurer. Donc au contraire, Et il faut accepter d'en enlever. Quand tu parlais aussi du look des personnages, ben ça, c'est un travail qu'on a fait en amont pendant tout le temps de l'écriture. Pendant que Wilfried écrivait le scénario, moi, je faisais des recherches de personnages. Et en fait, ce qu'il faut aussi, c'est que nos personnages soient identifiables facilement quand ils sont côte à côte et au loin petits. Et on a besoin de ça, en fait. Donc, on a Redolf qui est plutôt un bloc, qui résume bien son personnage, d'ailleurs. Le fiston qui est plutôt une tige toute molle, enfin ainsi de suite quoi. C'est comme ça en fait, la construction s'est faite et après en fait tout ça se passe pendant le storyboard essentiellement quoi.
Et est-ce que les choses doivent vous faire marrer tous les deux ou est-ce que de temps en temps il y en a un qui rigole et pas l'autre ou est-ce qu'à chaque fois ça
c'est un... Non, là c'est un accord tacite qu'on a passé entre nous. Il faut que ça nous fasse rire tous les deux. Si ça nous fait pas rire. Ben, on le fait pas. Alors après, il y a certains gags, c'est arrivé, hein, qui fonctionnent très bien à la lecture du scénario, et c'est une vraie galère à mettre en dessin. Et pour certains, on a fait 5-6 versions, et dans le 2, il y en a même un ou deux qu'on a enlevé, qu'on a remplacé par d'autres, parce que ça ne fonctionnait pas, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait. Parce que c'est une vraie galère, des fois.
Oui, il doit avoir une réserve de gags, il doit avoir
un... Ouais, en fait, ouais. Il me dit pas tout. Je pense qu'il en a sous le pied. Parce que c'est trop facile. À un moment donné, j'ai bien senti, on a lâché l'affaire sur un gag ou deux, et de suite, il y en avait d'autres qui sont arrivés. Et donc, ouais, il en avait. Non, mais il est très bon pour ça.
Combien vous mettez de temps à faire un album ?
Alors, je pense qu'on a dû mettre. De toute façon, c'est assez classique. On a dû mettre une année pour faire le premier tome. Parce que Wilfried a facilement 2-3 mois d'écriture dessus, parce qu'il fait pas mal de recherches historiques. Là-dessus, on est plutôt assez content d'ailleurs d'avoir été validé par pas mal d'historiens qu'on a rencontrés en plus. Et donc lui, il a 2-3 mois d'écriture. Après, moi, ouais, je pense que j'ai dû mettre 7 à 8 mois sur le premier tome. Il y a une longue phase, on storyboardise vraiment tout l'album. Il faut que tout marche au storyboard, donc on fait vraiment tout l'album en storyboard. Donc là c'est 2-3 mois à faire que du board. Après je fais un storyboard assez précis de toute manière, donc je vais gagner du temps après pour le dessin, mais c'est là qu'on voit si la mécanique est bonne, hein. C'est à ce stade là quoi, même si on sait qu'il y a des trucs qu'on va affiner avec le dessin et puis à la couleur surtout, parce que la couleur est importante dans Viking dans la brume, mais enfin, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit justement si des personnages fonctionnent ou fonctionnent pas quand ils sont côte à côte. S'il y a des personnages... parce que leur morphologie pose un problème par moment en termes d'animation. Hein. Enfin, quand tu lis l'album, tu t'aperçois qu'il y a certains mouvements, je ne peux pas leur faire à mes Vikings. Quoi. On en rigole souvent. Là. Je flippe d'un scénario dans lequel Wilfried me demande de faire monter les Vikings à cheval. Quoi. Parce qu'ils ont tous des pattes toutes courtes, ça va être une catastrophe, quoi. Enfin, ou alors, il faudra que le lecteur accepte la morphologie de nos chevaux, qui seront certainement très proches des teckels. C'est ce qui se passera, quoi.
Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, parce qu'on les voit toujours, toujours debout, j'allais dire, ou sur leur bateau, ou en train de courir.
De temps en temps, et on les voit assis sur un tabouret ou assis par terre, mais c'est très compliqué, ouais.
Et en fait, en lisant les deux tomes de Viking, peut-être que j'exagère un peu, mais je trouve que c'est un super hommage à tous les dessinateurs de strips dans la presse qui doivent en fournir des quantités industrielles. Quand on voit votre travail, on se rend compte à la fois de la dose de travail et de la concentration et de l'énergie, de l'investissement qu'il faut mettre pour arriver à être drôle tout le temps. Quoi.
Ça, c'est, oui, oui. Ouais. Merci encore. Mais de toute façon, je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est commun à toute la bande dessinée. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. La plupart du temps, un album, ça se lit, en une heure. Une heure en moyenne, on lit un album de bande dessinée. Les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est. Quoi. Quand on a l'occasion justement de leur expliquer, souvent, ils tombent de haut.
Ouais, ça m'étonne pas, mais enfin bon, on est un peu dans la partie, on se rend compte de ça, quoi. Je trouve que ça paraît encore plus dur dans ce que vous faites parce que le dessin est hyper précis, hyper léché dans ton style, quoi. Et Ça, c'est très impressionnant. Pas bon, ça, c'est... Je suis dingue de cette série.
Ah ouais, ben, merci.
Comme toute volante.
Alors, il y a un tome 3. Il y a un tome 3 qui est en cours.
Oh, j'espère.
Non, mais c'est vrai que c'est... Mais de toute façon, ça fait partie de notre accord tacite aussi. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait que ça nous fasse rire tous les deux. Et dans notre travail, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on met vraiment notre ego de côté. S'il y a besoin de refaire des dessins pour que ça fonctionne, tant que ça ne fonctionne pas, ben on le refait. Et s'il y a besoin de changer des textes, ben c'est pareil, Wilfried modifie et après c'est un fonctionnement assez classique aussi, c'est du ping-pong, hein, c'est-à-dire que moi quand je fais le storyboard, je lui propose quelque chose, il s'attendait peut-être pas forcément à ce que j'ai proposé, donc il peut modifier, s'il trouve que c'est une bonne piste, il va modifier ses textes et ainsi de suite, quoi. Mais c'est vrai que des fois ça tient à rien, hein, c'est une main qu'il faut corriger parce que ça a une indication, c'est une tête qu'il faut tourner, c'est une bulle qu'il faut déplacer d'une case ou enlever. Après, sur le tome 2, on a été un peu plus vite parce qu'on avait la mécanique, on connaît les personnages, enfin, il y a tout ça, quoi.
Et tu disais que Wilfried faisait beaucoup de recherches historiques, ça se sent, hein. Notamment dans le tome 2, il y a tout un rapport avec un évêque qui est assez hilarant, qui est prisonnier, qui doit être vendu, oui. Pas vendu. On doit le déplacer. Enfin bon, c'est assez génial. Et on voit effectivement qu'il a vachement bossé parce qu'il y a des questionnements, il y a des positions. Enfin, c'est assez historiquement précis. Mais les Vikings, c'est aussi un peuple, même si c'est aussi une image d'Épinal, mais c'est aussi vrai. Quand même pas des tendres, hein. c'est très violent, ça décapite, ça remet en esclavage et ainsi de suite. Comment tu t'arranges pour que cet humour, qu'on soit toujours dans la barbarie viking et qu'on soit toujours dans le drôle ?
Ben, en fait, je m'arrange, on va dire, ce qui peut sembler violent, on le traite, mais souvent en arrière-plan. Parce qu'il est question de pillage, tout ça, notamment dans le premier tome. Ça passe par la couleur, déjà. C'est vrai qu'on n'a pas de sang, on n'a pas de choses comme ça, mais on a des couleurs assez fortes qui permettent de faire comprendre ce qui se passe. Mais après, en fait, si on regarde bien, si on prend des bandes dessinées comme Les Tuniques Bleues ou même Achille Talon, dans Achille Talon, il y a de la violence. Il y a des personnages, des fois, qui se font découper... Mais ça passe, quoi. Ça dépend comment on l'amène, comment on le traite et tout ça, quoi. Après, je reviens sur ce que tu disais sur les recherches historiques. Wilfried, il fait toujours, dans tous ses bouquins, il fait énormément de recherches. Il n'aime pas être pris en défaut. Et quand on est parti sur les Vikings, qui m'a parlé de ça, dans nos premiers échanges, moi, j'ai été rempli de clichés sur les Vikings. Et il m'a deux, trois fois dans notre conversation, il m'a dit non, mais ça a jamais existé. Alors au début, bon, je disais trop rien, je m'étais mis ça un peu dans un coin de tête. Et quand il est parti écrire de son côté le scénario, moi, dans le même temps, je faisais mes recherches, mais je me suis mis aussi à bouquiner pas mal sur les Vikings. Et en fait, il avait raison. Sur des tas de choses, en fait, on a plein d'idées reçues, plein de trucs. Amené par les dessins animés, les séries, les films. Et en fait, c'est ce qui est super intéressant dans cette série-là. Et je continue, on continue tous les deux à potasser les bouquins sur les Vikings. En plus, on a rencontré des historiens maintenant qui nous valident des trucs, qui nous envoient des bouquins à lire et tout. C'est super cool.
Oui, parce que c'est aussi des Vikings, il n'y a pas que du pillage, ils ont des vies de famille. Ça, c'est aussi un côté que je trouve très sympa dans la série. C'est qu'ils ont... Ouais. Ils ont des femmes, des enfants, ils rentrent chez eux, ils se font engueuler le soir quand ils arrivent trop tard ou quand ils ramènent n'importe quoi.
C'est ça.
Il y en a qui ramènent des tapis. Enfin, c'est.
Ouais. Ouais, complètement. Mais ça, de toute façon, ça c'est l'écriture. Enfin, ça c'est Wilfried qui amène tout ça. C'est son écriture. Hein. C'est moi je trouve ça super intelligent, super fin. Et après, à moi de réussir à le faire passer par le dessin, bien entendu, quoi. Mais j'ai déjà une bonne base. Ces dialogues sont en général assez hilarants, quoi. Le tome 2, je l'ai découvert. On était dans le train tous les deux. La lecture du scénario du tome 2, en fait, s'est faite dans le train. On partait pour notre première séance de dédicace sur le tome 1. On partait à Perros-Guirec. Donc, on avait le temps de lire, hein, dans le train, parce que moi, j'avais dit oui, j'avais pas trop regardé où c'était Perros-Guirec. On a vite peau, hein, quand même. Hein. Et, euh, C'est les copains qui m'ont invité. J'ai dit ouais, ok. Après, quand j'ai regardé sur la carte, j'ai dit putain, ça va piquer. Et donc, j'avais le temps de lire. Il m'a donné le scénario du tome 2 dans le train. Et déjà, mais moi, je chialais de rire par moment, quoi. Je voyais très bien où on en allait aller. C'était très, très bien, quoi. Donc, après, c'est plutôt un challenge pour moi, quoi. Il faut que j'arrive à retranscrire ça.
Ça marche bien, on voit. Bon, c'est ton frère, donc tu le connais bien, j'imagine. Mais on voit qu'il y a une vraie complicité, une vraie osmose entre le texte et l'image.
C'est bien trouvé. En fait, on a mis très longtemps à bosser ensemble sur un bouquin, mais en fait, ça vaut le coup, quoi. Enfin, je trouve qu'on s'est bien trouvé là. On est content.
Avant de discuter d'un autre album qu'on a plus ou moins réalisé ensemble, 13 batailles, une histoire de France. Quand on voit ton travail, je ne dirais pas que tu as plusieurs styles, mais suivant les bandes dessinées, tu as un style graphique qui évolue, qui change en tout cas. Comment on fait pour changer de style suivant les projets ?
J'ai envie de dire, on travaille, mon cher monsieur. mais c'est exactement ça, en fait. C'est que j'ai toujours peur de m'ennuyer. Je suis assez admiratif des gens qui arrivent à faire... travailler des années et des années sur des séries, il y a des séries, il y a 30, 40, je ne sais pas combien de tomes, même s'il y a certaines, pour certaines, ils ont changé de dessinateur entre-temps, mais les dessinateurs historiques ont réussi à faire ça pendant des années. Moi, je pense que j'aurais du mal. Donc, j'ai besoin de varier les supports, les styles aussi. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui fait avancer. Quand Wilfried m'a proposé Viking, c'était clair pour lui que j'allais... Enfin, il était hors de question que je parte dans la BD d'humour comme je faisais chez Van West, un truc comme ça. Mmh. Donc, c'était vraiment... Donc, c'était un défi. Donc, voilà. Et je pense que peut-être dans un an ou deux, je ferai une autre bande dessinée. Enfin, certainement, d'ailleurs. Et ça sera dans un autre style. Je vais pas faire... Ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. Enfin, je vois pas adapter le style de Viking à d'autres choses. Ça serait dommage. C'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire un peu de peinture, faire de l'illustration, faire des trucs comme ça, quoi. Explorer.
Alors, autre chose, quand on regarde ton site, il y a une page consacrée à Henri IV, super-héros, Super Henri IV.
Ouais.
Ça aussi, moi, ça me fait mourir de rire. Comment tu es arrivé à ce tropisme Henri IVien ?
En fait, à la base, c'est parti d'un voyage à New York où, en fait, j'ai vu... à Little Italy, un street artiste qui avait fait un truc avec un Hulk, avec un bébé Hulk géant. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc, à la base, je m'étais dit, tiens, je sais pas pourquoi, y a une connexion qui s'est faite à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je ferais bien un gros Hulk, un Henri IV en Hulk. Donc, c'est parti de là. Je galérais pas mal sur l'illustration et pendant que je bataillais sur le dessin, est venue l'idée d'une série de portraits d'Henri IV dessinés à la façon comics. Et donc, entre-temps, j'ai sorti le tout premier, c'est-à-dire le Captain Henri IV, qui est un hommage à Captain America. Parce qu'en fait, dans ces séries d'illustrations, à chaque fois, je dessine donc le Super Henri IV dans le style du dessinateur emblématique du personnage du super-héros. Donc là, le Captain Henri IV, il est dessiné comme le Captain America à la Jack Kirby, avec le style. Et j'intègre à chaque fois, le but, c'est d'intégrer des références historiques dans chaque illustration. Donc, ça passe par les codes couleurs, ça passe par plein d'infos, en fait. Sur le Captain Henri IV, par exemple, c'est le bouclier qui est remplacé par la carapace de tortue, le bleu-blanc-rouge de son costume est remplacé par le jaune, blanc, rouge. Enfin, il y a plein de références partout dans l'illustration. Et je fais attention aussi, pour la plupart, de garder vraiment la maquette de la couve emblématique du personnage dans le style de l'époque, tout ça. Il n'y a que le Hulk. Le Hulk, c'est une création, parce que je n'ai pas trouvé de couve de Hulk qui me plaisait, enfin, qui correspondait. Et le Deadpool, le dernier, là, le Deadpool, ça, c'est pareil. Mais Deadpool, c'est compliqué, parce qu'en fait, c'est pas un personnage, il est trop récent. Il n'y a pas de couverture emblématique comme peuvent l'avoir tous les autres. Quoi.
J'invite les auditeurs à aller voir ta page parce qu'il y a donc il y a le Deadpool Oppo, il y a le Captain Henri IV, il y a l'incroyable Henri IV qui est le vert galant, le Henri IV d'argent pour lequel j'ai une petite tendresse. et puis l'invincible Henri IV. Enfin, franchement, c'est absolument génial. Et je vais rebondir, donc, parce que j'ai pensé à toi pour ce fameux projet des 13 batailles pour te faire illustrer la bataille d'Ivry, justement parce que j'avais vu des Henri IV sur ta page et je me suis dit que ça allait te réjouir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, pour moi, ça fait connexion. Donc, 13 batailles, c'est les 13 grandes batailles de l'histoire illustrées par 13 illustrateurs. Et toi, je t'avais proposé d'illustrer donc la bataille d'Ivry, qui est une bataille importante du règne d'Henri IV, qui fait, on va dire, c'est la défaite de la Ligue, la défaite des rebelles catholiques. Ça, c'est le contexte historique. Moi, ce qui m'intéressait avec toi aujourd'hui, c'est de parler du scénario, parce que donc, c'est un scénariste qui n'est pas ton frère, qui est Dobbs, qu'on a déjà reçu il y a 2 ans dans cette émission. Comment un dessinateur s'adapte à l'humour d'un nouveau scénariste, sachant que le style graphique est assez proche des Vikings, même si évidemment c'est pas tout à fait pareil, mais on est dans la même famille graphique. Comment tu rentres dans l'humour de quelqu'un d'autre comme ça? Est-ce que c'est facile?
Alors, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Surtout parce qu'en fait, on se connaissait pas du tout avec Dobbs. Mais qui a été aussi très cool parce que effectivement on n'avait jamais parlé du projet vraiment. Moi j'ai reçu le scénario dans sa première mouture en fait, et il y avait des choses que je savais qu'elle allait pas me correspondre, et il a gentiment, enfin on en a discuté par ton intermédiaire au départ je pense, mais après on s'est parlé et tout, et ça s'est super bien passé. Et donc il a adapté adapté son histoire un peu à mes doléances, on va dire. Non, après, enfin moi je l'ai trouvé super souple aussi. Je me suis permis par moment de redécouper le texte ou peut-être de rajouter un ou deux dialogues, mais en disant bien que si ça lui plaît pas, on revient sur le truc initial. Il a été assez compréhensif et assez souple là-dessus. Mais je pense pour la même raison que ce que j'évoquais tout à l'heure dans ma collaboration avec Wilfried, c'est à partir du moment où c'est pour le bien de l'histoire, on s'en fout, quoi. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler de toute manière. Non, moi je trouve que ça s'est bien passé. Il me tarde de le rencontrer et qu'on puisse boire une bière ensemble, parce qu'on s'est encore jamais vu.
Oui, bah c'est ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand ça le faisait rire, que ça me faisait rire et qu'on était tous les trois à se marrer, bah c'était bon, quoi. C'était ça le principe.
Bah c'est ça, ouais. En fait, il faut mettre ses égos de côté. C'est ce que devraient faire beaucoup de gens dans la vie. Dans plein de domaines. Et je pense que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux dans plein de domaines aussi.
Ouais. Sur ces bonnes paroles, on arrive au terme de notre entretien. Je te remercie. Je rappelle donc les albums dont on a parlé. Il y a Viking dans la brume. Tome 1 et le tome 2, c'est Valhalla Akbar, c'est publié par les éditions d'Argo. C'est plus que drôle, et il faut absolument lire ça. Et puis 13 batailles de l'histoire de France, ça c'est publié par les éditions Passé Composé, ça fait 190 pages je crois, et c'est au prix de 25 €. Et je dis tout parce que j'en suis l'éditeur, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je te remercie au hasard et je te dis à bientôt pour un nouvel album.
Et là, ça marche. Merci beaucoup. Salut.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.